Ça, elle réclame une rallonge budgétaire de 25 milliards de shekels pour l'année en cours et avertit que l'absence de ces fonds pourrait affecter directement ses capacités opérationnelles.
Donald Trump ne souhaite plus renouveler l'accord provisoire conclu en juin avec l'Iran. Il préfère exercer une pression économique sur la République islamique.
Jérusalem accepte le principe d'une vérification internationale du désarmement du Hezbollah, mais refuse le déploiement d'une force italienne au Liban.
Et enfin, en Belgique, l'incendie dévastateur des Hauts-de-Fagne pourrait avoir été provoqué par des travaux de fauchage effectués par une société mandatée par la région wallonne. Tsahal réclame une rallonge budgétaire de 25 milliards de shekels pour l'année en cours et avertit que l'absence de ces fonds pourrait affecter directement ses capacités opérationnelles. C'est ce que rapporte Cannes aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité nationale s'était engagé à accorder à l'armée une enveloppe supplémentaire de 40 milliards de shekels. 12 milliards seulement ont été jusqu'à présent transférés. Deux autres versements doivent intervenir en octobre et en décembre. Un haut responsable de Tsahal a averti que tout retard supplémentaire aurait des conséquences concrètes sur les activités de l'armée. Si l'argent n'arrive pas, nous devrons interrompre le recrutement des réservistes, réduire les missions de collecte de renseignements et nous ne pourrons pas nous préparer correctement à la possibilité d'une reprise de la guerre contre l'Iran, a-t-il déclaré à Cannes. Au-delà des besoins immédiats, l'armée s'inquiète également du financement de ses programmes d'équipement à long terme. Tsahal avait obtenu la promesse d'une enveloppe de 350 milliards de shekels sur 13 ans entre 2027 et 2040. Quelques 70 milliards doivent financer l'acquisition de F-35 et de F-15 ainsi que des hélicoptères. Benjamin Netanyahu a déjà approuvé une autre enveloppe de 100 milliards de shekels, mais Tsahal réclame 180 milliards supplémentaires pour poursuivre ses programmes de renseignement et d'équipement. L'armée redoute en particulier que les échéances politiques de cette année retardent les décisions budgétaires et que sans financement adéquat, l'armée se retrouverait dans une situation extrêmement difficile alors qu'Israël reste confronté à des menaces sur plusieurs fronts.
Israël refuse le déploiement d'une force italienne au Liban.
Le projet prévoit que cette force accompagne l'entrée de l'armée libanaise et supervise la transition sur le terrain. Jérusalem accepte le principe d'une vérification internationale du désarmement du Hezbollah, mais refuse qu'une force étrangère serve seulement à encadrer un retrait israélien. Sans résultat préalable, Israël soupçonne Beyrouth de chercher une formule qui permettrait d'éviter une confrontation directe avec le Hezbollah. La présence italienne risquerait de limiter la liberté d'action de Tsahal sans empêcher l'organisation terroriste chiite de conserver ses armes ou de reconstruire ses positions. L'Italie figurait avec le Royaume-Uni, la Suisse et l'Indonésie parmi les pays envisagés pour participer à un mécanisme de contrôle. Mais pour Israël, une mission internationale ne peut être utile que si elle vérifie des avancées concrètes, saisie des armes du Hezbollah, démantèlement des structures et déploiement effectif de l'armée libanaise. Et selon ce qui s'est passé sur les zones pilotes, ça n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Et dans ce contexte, l'administration Trump a donné son feu vert à son ambassadeur au Liban, Michel Issa, pour discuter directement avec le Hezbollah.
Oui, et ce pour faire avancer les efforts de Washington visant à désarmer ce groupe terroriste. Les États-Unis ont négocié un accord entre Israël et le Liban dans ce but. Mais l'opposition du Hezbollah, cet accord a rendu sa mise en œuvre difficile. On est revenu sur ce sujet et sur la situation au Liban à 7h15 avec Jacques Neria.
Selon l'agence syrienne officielle Sana'a, deux obus tirés par les forces israéliennes ont visé cette nuit le secteur de Beit Jin dans la campagne occidentale près de Damas. Les projectiles seraient tombés sur des terres agricoles.
L'armée américaine a déminé les voies maritimes internationalement reconnues du détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a déclaré hier soir l'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central américain, le CENTCOM.
En résumé, aujourd'hui, les voies maritimes internationales sont ouvertes et la dynamique s'accélère, a déclaré l'amiral Cooper, qualifiant cette avancée de jalon majeur. Le CENTCOM a débarrassé le détroit grâce à une intervention conjointe des Marines, des SEALs et de toutes les forces américaines, a déclaré l'amiral Cooper. Le président américain Donald Trump ne souhaite plus renouveler l'accord provisoire conclu en juin avec l'Iran et préfère exercer une pression économique contre Téhéran.
Oui, Lisa, et ce afin d'obtenir des conditions plus favorables pour mettre fin au conflit. Le président américain a lui-même déclaré aux journalistes que ces nouvelles sanctions contre l'Iran pourraient s'étendre aux banques chinoises qui font affaire avec ce pays. Il a également précisé qu'il n'y avait actuellement aucune discussion entre les États-Unis et l'Iran, alors même que le chef de la diplomatie de Téhéran recevait son homologue qatari Paris, un médiateur clé pour discuter du détroit d'Hormuz. Les sanctions économiques présentées en début de semaine par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent visent les actifs numériques et la technologie de l'Iran ainsi que ses secteurs de l'or, de l'aviation et du transport maritime. D'éventuelles sanctions secondaires pourraient toucher des entités situées aux Émirats arabes unis, à Hong Kong, en Chine, à Singapour et en Europe qui transportent du pétrole iranien.
Et Donald Trump affirme que l'Iran cherche à renouer le dialogue avec Washington.
Dans un message publié cette nuit sur Truth Social, le président américain a démenti une information d'un correspondant de Fox News selon laquelle il souhaiterait rencontrer des responsables iraniens. « Je ne veux pas les rencontrer, eux le veulent. En réalité, ils nous supplient de conclure un accord », a-t-il écrit, avant de qualifier l'Iran de « république islamique défaillante ». Quelques heures auparavant, Donald Trump avait assuré qu'aucune discussion n'était en cours avec Téhéran. La porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt a également indiqué qu'aucune rencontre n'était programmée. Washington entend désormais accentuer la pression économique sur le régime iranien. Le blocus maritime reste en vigueur et l'opération baptisée Economic Outcast vise à priver Téhéran de ses dernières sources de financement. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a notamment menacé les sanctions, deux sanctions secondaires, les pays et les entreprises qui continueraient à entretenir des relations commerciales avec l'Iran. Et puis l'ancien chef du Mossad, David Barnea, estime de son côté que le régime iranien pourrait bientôt tomber.
Oui, il l'a déclaré hier soir lors d'une cérémonie en son honneur à Jérusalem. Il a profité de ce discours pour appeler à accentuer la pression sur l'Iran. Il a salué les nouvelles sanctions américaines tout en estimant qu'elles ne constituent qu'une étape. Selon lui, les actions économiques, diplomatiques et opérationnelles contre le régime iranien doivent être intensifiées jusqu'à sa chute. L'ancien patron du Mossad a aussi fait un bilan de près de 3 ans de guerre. Il affirme que la situation stratégique d'Israël est meilleure qu'avant le 7 octobre.
Élection israélienne à présent, le parti Chass met la pression sur Benjamin Netanyahou. Le parti orthodoxe exige l'adoption d'une loi sur la non-conscription des étudiants de Yeshiva avant de rejoindre le prochain gouvernement.
L'ancien ministre du Travail a assuré que Chass resterait fidèle au bloc de droite, mais a prévenu que le règlement de la question militaire des orthodoxes constituerait une condition préalable à l'entrée du parti dans une coalition. Cette position intervient alors que les sondages sont peu favorables à Chass. La polémique sur les exemptions militaires a éloigné une partie de ses électeurs traditionnels, notamment parmi les séfarades qui servent dans l'armée ou comptent des réservistes dans leur entourage. Selon les données communiquées hier par Tzahal, plus de 4200 ultra-orthodoxes se sont enrôlés cette année dans Tzahal, contre seulement 2008 l'année précédente, soit une hausse de 53%. Avant la guerre, ils n'étaient que 1700, mais l'armée estime qu'ils peuvent être 14 000 par an. Des chiffres qui traduisent une progression significative, mais encore très éloignée des besoins de Tzahal.
Et le Likoud revoit sa stratégie face à Ofer Winter et à son nouveau parti Amecha Israël, après les premiers sondages créditant la formation de 6 à 8 sièges à la Knesset.
Oui, et le problème, c'est que au sein du parti de Benjamin Netanyahou, on s'inquiète. Certains estiment que l'ancien général pourrait devenir une force significative du bloc de droite, alors même que sa campagne électorale n'a pas vraiment commencé. Face à cette nouvelle donne, le Likoud concentre désormais ses efforts sur Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir afin de les pousser à s'unir avant les élections.
Et Benjamin Netanyahou, justement, qui a publiquement appelé le dirigeant du sionisme religieux et Itamar Ben-Gvir à faire liste commune.
Itamar Ben-Gvir a rejeté dans un premier temps cette perspective et accusé le Premier ministre israélien de vouloir maintenir son parti Force juive dans une position de faiblesse afin de pouvoir, après les élections, former un gouvernement élargi avec Gadi Eisenkot. Benjamin Netanyahou s'est appuyé sur les sondages pour défendre l'idée d'une alliance technique entre les deux partis. « Si vous ne vous unissez pas, nous aurons un gouvernement de gauche. » Eisenkot avec Yair Golan et les partis arabes a averti Benjamin Netanyahou. Bezalel Smotrich, de son côté, a réagi positivement en affirmant que l'heure était à l'union de la droite. Le ministère des Affaires étrangères israélien a vivement critiqué une déclaration commune de 15 pays et de l'Union européenne qui condamne l'entrée d'Israël dans un centre de l'UNRWA à Calandia et la saisie des locaux de l'agence à Jérusalem-Est.
Ces pays ont appelé l'État hébreu à respecter ses engagements et à mettre immédiatement fin à ce qu'ils ont qualifié d'ingérence dans les opérations de l'UNRWA. La déclaration a été signée par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, l'Espagne, le Japon, la Belgique ainsi que d'autres pays et a réaffirmé leur soutien à l'UNRWA et a fait valoir que l'intrusion d'Israël dans les locaux était illégale. Ils ont déclaré que les installations de l'ONU étaient protégées par le droit international et ont appelé Israël à permettre à l'UNRWA de mener à bien son travail sans entrave. En réponse, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré « Vos faits sont erronés, vous soutenez une organisation qui est un terreau fertile pour le terrorisme et vous préférez attaquer Israël avec des accusations sans fondement plutôt que d'agir dans l'intérêt des enfants arabes de Kafr Aqab. C'est une honte », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.
En France, la députée Caroline Yadan a annoncé avoir saisi la procureure de la République de Paris au sujet de la campagne de cyberharcèlement et de menaces antisémites visant Gisèle Journeau.
Oui, Gisèle Journeau qui est cofondatrice de l'agence d'influence Gisèle Paris. Dans un courrier daté du 24 août, l'élu de la 8e circonscription des Français établis hors de France a décrit une campagne de harcèlement en ligne qui aurait pris de l'ampleur après la diffusion d'anciennes publications de Gisèle Journeau, parmi lesquelles un hommage à un soldat israélien décédé et un contenu relatif au chanteur israélien Omer Adam. Menacé d'exclusion du centre de coordination pour Gaza, Londres répond à Israël.
Le Royaume-Uni a réagi ce matin aux informations selon lesquelles Israël envisagerait d'exclure ses représentants du centre de coordination civilo-militaire de Kiryat Gat, chargé notamment du suivi de la situation à Gaza. Le Royaume-Uni est engagé dans la mise en œuvre du plan 20 points pour Gaza et joue son rôle dans l'amélioration de la situation sur le terrain, a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique ce matin. Écarter le Royaume-Uni ou d'autres partenaires compromettrait ses efforts. La mesure n'a pas encore été officiellement décidée. Elle serait étudiée en réponse au durcissement de la position britannique sur la politique menée par Israël à Gaza et en Judée-Samarie. Le centre de Kiryat Gat fonctionne sous direction américaine. Londres y a déployé un petit groupe d'officiers, dont un officier général qui occupe une fonction d'adjoint au commandement. La structure participe à la coordination internationale autour de la trêve, l'aide humanitaire et l'après-guerre à Gaza. Israël a déjà écarté les représentants espagnols et néerlandais du centre en raison de leur décision considérée comme hostile par Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar avait notamment dénoncé les restrictions commerciales imposées par les Pays-Bas aux produits provenant de Judée-Samarie, de Jérusalem-Est et du Golan. Pour l'heure, l'Italie et l'Allemagne ne seraient pas concernées. Des responsables israéliens ont démenti à notre micro hier le fait que l'exclusion serait également envisagée. On vous demande comme question du jour pour lundi, la rupture est-elle consommée entre le Royaume-Uni et Israël ?
À l'approche du 25e anniversaire du 11 septembre, les journalistes de la Canadian Broadcasting Corporation, la CBC, ont reçu pour consigne d'éviter de qualifier les attentats du 11 septembre d'attaques terroristes, ce qui a suscité de larges critiques au Canada.
La CBC a diffusé une note de service dans ce sens à ses journalistes et rédacteurs en chef. C'est le journaliste canadien Warren Kinsella qui a reçu cette note, qui a été le premier à révéler cette information. Il a déclaré qu'on présentait le 11 septembre comme des détournements d'avions ayant entraîné un crash de ligne à Washington, en Pennsylvanie, à Manhattan, et le World Trade Center en a été détruit. La porte-parole de la CBC a déclaré au Jerusalem Post qu'il était de coutume dans cette chaîne de faire preuve d'une extrême prudence avant d'utiliser les termes terrorisme et terroriste. En octobre 2023, la chaîne avait également hésité à qualifier le 7 octobre d'attaque terroriste. La députée canadienne Rachel Thomas a qualifié cette note de tout à fait honteuse. La CBC choisit de redéfinir le terrorisme d'une manière qui minimise l'atrocité du 11 septembre. Le 11 septembre était un acte de terrorisme, point final. La CBC est le radiodiffuseur public canadien qui a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de fonds publics en 2025-2026. Le bilan des violentes inondations qui ont frappé le Népal s'est alourdi à 475 morts, tandis que les opérations de secours ont été suspendues dans certaines des zones les plus touchées en raison du risque d'une nouvelle catastrophe.
Oui, des centaines de personnes sont toujours portées disparues après les torrents de boue, de roches et de glace qui ont déferlé sur le nord du pays et sur le sud du Tibet. À l'origine du désastre, l'effondrement d'une masse de glace et de roches dans l'Himalaya a provoqué une crue soudaine qui a ravagé plusieurs vallées, emportant des villages et détruisant routes, ponts et infrastructures hydroélectriques. Les recherches sont particulièrement difficiles dans les régions montagneuses où de nombreuses localités restent coupées du reste du pays. Le roi Harald V de Norvège est décédé à l'âge de 89 ans. Le souverain qui a régné sur le pays pendant plus de 35 ans se trouvait dans un état de santé très critique ces derniers jours. Il était hospitalisé depuis le 17 août à Oslo. Son fils Haakon, 53 ans, lui succède immédiatement en tant que roi de Norvège.
En Belgique, à présent, l'incendie dévastateur des Hautes-Fagnes pourrait avoir été provoqué par des travaux de fauchage effectués par une société mandatée par la région Wallonne. C'est ce que révèle une enquête de la RTBF.
Oui, l'origine de l'incendie qui a ravagé la région commence à se préciser. Hein, selon une analyse menée par la RTBF, des travaux de fauchage réalisés à l'aide d'une machine agricole à la demande des autorités wallonnes pourraient être à l'origine du départ de feu filmé par des parachutistes depuis les airs le 14 août dernier. En comparant ces images amateurs avec des images aériennes et satellitaires de la zone où l'incendie s'est déclaré, le lieu exact du départ de feu a pu être déterminé. L'analyse des images satellites montre que des travaux de fauchage ont eu lieu entre le 10 et le 14 août dans le cadre de travaux effectués à la demande du département de la nature et des forêts. Il s'agit d'un service public de la région Wallonne qui gère et protège les espaces naturels, les forêts et la biodiversité. On termine sur une note positive. L'ancienne otage Émilie Damary, 30 ans, et l'influenceuse culinaire Danielle Hamit, 36 ans, se sont mariés hier soir à Tel Aviv entourés de leurs proches et de nombreux amis.
Pour l'occasion, les deux mariés étaient vêtus de blanc. Une consigne particulière avait même été adressée aux invités, ne pas porter de rouge, en référence à l'attachement d'Émilie Damary au Maccabi Tel Aviv, dont le grand rival, l'Hapoël, arbore le rouge. Plusieurs anciens otages figuraient notamment parmi les invités. Avec le mariage d'Omer Adam cette semaine à Portofino, ce nouveau mariage a fait les titres des unes en Israël. On souhaite Mazal Tov aux deux couples.